When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Allez, salut à toutes et à tous et prenez place pour votre podcast fin de séance numéro 22 déjà, c'est pas mal. L'émission ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine sur Séance Radio. L'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers, on vous le dit, c'est pas des blagues. Et nous sommes toujours confortablement installés au Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, pour cet épisode spécial sorcellerie, nous avons réalisé un petit tour de passe-passe puisque l'ami Thomas Camacho n'est pas avec nous. Il se dort tranquillou, la pilule au soleil au Maroc. D'ailleurs, je crois même qu'il fait du surf, il prend des cours de surf. Donc, on lui fait un très gros bisou. Et c'est moi, Pierre de fanfootage.fr, qui vais prendre sa place et vous accompagner tout au long de cette émission pour parler. Alors, on a les Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald et du remake version 2018 de Suspiria. Du coup, pour éclairer votre lanterne avec moi, on ne les présente plus, les deux tourtereaux de la critique, Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr. Comment ça va les gars?
Bah ça va, salut, ça va. Podcast numéro 22 comme mon âge.
Évidemment, tu as 22 ans. Et un autre membre qui est aussi très jeune, qui a 22 ans, mon grand ami Mathieu Poudret.
Absolument.
Comment ça va Mathieu?
Eh ben, très bien, très content d'être là avec vous.
Eh ben, merci de te joindre à nous et de nous donner ton avis sur Harry Potter, parce que j'ai cru comprendre que tu avais été un petit peu remonté. Beaucoup de choses à nous dire, mais on ne spoile pas. Ah, enfin bref, si vous êtes prêts, si les verres ne sont pas vides, je vois que ça commence à baisser. On va tout de suite commencer avec les Animaux Fantastiques 2, si ça vous va.
Oui, oui, allons-y.
Et on va tout de suite écouter vos avis. C'est parti.
Bon, cette mission, c'est quoi?
Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment énorme comme film. C'est la suite qu'on attendait. On n'ose pas attendre 2 ans pour la suite, mais non, des personnages, un univers qu'on retrouve. Et en même temps, on découvre encore plein de choses, donc... C'est comme les livres, c'est super.
Énormément de scènes d'action, plus que dans le premier. Après, vous allez rester un peu sur votre faim parce que c'est clairement, ça annonce un 3 tout de suite. Et donc ça se finit un peu en autre boudin. Mais non, très bon moment en tout cas.
C'est formidable. Enfin, l'univers de J.K. Rowling, il est absolument génial. C'est dans la continuité du premier et on est surpris encore. Donc c'est juste génial, quoi. Franchement.
Et Johnny Depp, très bien aussi. Un peu toujours dans le même style. Un peu à la Jack Sparrow, un peu taré, mais très, très bon aussi. Un peu fêlé, mais ouais, non, ça lui va très bien.
Et ben moi, je l'ai trouvé super convaincant. Je l'ai trouvé très dans la retenue, voilà, vraiment à la hauteur du personnage. Il en fait pas des caisses comme il peut en faire sur d'autres films.
Je pense que le combat de Johnny Depp, Jude Law dans le prochain risque d'être assez monstrueux quand même.
Et oui, vous l'aurez compris, grosso modo, des avis très positifs. Et c'est moi qui suis allé enregistrer les micro-trottoirs en sortie de salle et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un avis négatif parce que tout le monde était complètement emballé. Ce qui me paraissait un peu surprenant parce que j'ai pas reçu le film avec autant de passion. D'ailleurs, Thomas m'a laissé un petit avis à chaud puisqu'il peut pas être avec nous, il peut pas être parmi nous aujourd'hui. Alors, il a trouvé ça qui est quand même mieux foutu que le premier film. Certes, mais que le rendu global était toujours aussi fade, que les aventures à Paris, bah, c'était vraiment un Paris de décor en carton, que l'intrigue était trop longue, qu'il y avait trop de personnages. Par contre, comme le premier, au moins le bestiaire était très sympathique. Donc du coup, je suis curieux d'avoir vos avis. Qui c'est qui veut commencer? Tiens, Ilan.
Moi? Pourquoi?
Ouais,
moi,
vas-y, je t'en prie.
Qu'est-ce que je t'ai fait?
Parce que je vois tes yeux qui scintillent, je sais que t'as envie de parler.
Mais mes yeux scintillent toujours quand je suis à côté de toi. Bah écoute, le film, moi je vais en parler comme d'un profane, c'est-à-dire un mec qui est pas spécialement fan d'Harry Potter, qui est pas spécialement fan non plus des Animaux Fantastiques. J'ai jamais lu aucun bouquin, j'ai vu les films, mais c'est tout. Le premier m'avait pas laissé un souvenir impérissable, j'avoue que m'avait laissé ni chaud ni froid. Et le deuxième, ça m'a un peu fait le même effet, c'est que c'était un truc très lisse, comme le veut l'expression consacrée que j'utilise beaucoup, à savoir le film Tefal.
J'adore cette expression. Hein. Je peux citer.
Oui, vas-y, cite.
Le film qui glisse mais qui n'adhère pas.
Voilà, ouais, c'est beau. J'aime bien quand tu dis.
Je trouve ça excellent.
Donc on n'est pas sponsorisé par Tefal. Aucun placement de produit dans ce podcast, on vous rassure.
Que tu dis,
sauf pour la bière que je dis, que je sais. Alors moi je vais en parler, comment dire, en fait, on va dire que les Animaux Fantastiques 2, j'ai eu l'impression en fait d'avoir un énième X-Men.
Ouais.
Sauf que à la place des mutants, tu as les sorciers. C'est exactement un peu pour moi hein, la même structure dramatique que tous les films de super-héros et particulièrement les X-Men. D'un côté, tu as le grand méchant sorcier qui veut soumettre les humains et à titre soi-disant préventif parce que les humains ont peur de ce qui est différent et qui pensent que la paix n'est pas possible entre
humains et sorciers. Hein.
C'est Magneto. De l'autre côté, tu as son némésis qui est prof dans une grande école, qui est amené à devenir un vieux sage, qui transmet son savoir à des jeunes sorciers. Dumbledore, aka Charles Xavier, avec des cheveux et une barbe. Et au milieu de ça, tu as aussi ce sorcier qui a du mal, qui est en quête d'identité, qui a du mal à maîtriser ses pouvoirs et qui, moi, m'a beaucoup fait penser à Phoenix, mais en mec avec une coupe au bol et la gueule d'Ezra Miller. Donc tout dans la structure m'a fait penser à un film de super-héros, même dans le côté, si tu veux, exposition assez longue des enjeux, morceaux de bravoure avec pas mal de poudre aux yeux, puis encore quelques tunnels de dialogue pour bien te replacer les enjeux au cas où t'aurais pas compris, et puis au final un final soi-disant déchiant entre guillemets avec le petit twist à la fin qui va ouvrir sur forcément un troisième voire quatrième volet. Donc pour moi c'était un Marvel avec des sorciers quoi.
J.K. Rowling avait annoncé 5 films hein.
Eh ben on n'est pas dans la merde.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Mathieu, je t'entends dire aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que t'as à dire sur le film? Vas-y.
Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Moi, je suis non seulement déçu, mais je suis en plus un peu en colère, finalement.
Ah oui?
Parce que je trouve que c'est un film... Déjà, je trouve que c'est un film feignant, qui finalement ne vient pas nourrir vraiment la mythologie du monde que nous a inventé J.K. Rowling. Je trouve que c'est un film qui n'est pas inspiré. L'histoire tient un peu de choses. Moi, j'avais pas forcément vu ce parallèle, mais je suis assez d'accord avec toi. Finalement, on est en train de rentrer dans un moule de films qu'on voit à droite, à gauche, un peu partout. Et je trouve qu'on perd, on perd la magie. Et c'est un peu l'image que j'ai eue en sortant du film. Moi, il y a une image que je retiens dans le film. Alors, c'est pas du spoil, on a vu ça dans les bandes annonces. On sait qu'on va revoir Poudlard, on va revoir des personnages bien connus de l'univers d'Harry Potter. Et il y a ce plan terrible de la grande salle de Poudlard que tous les fans d'Harry Potter connaissent bien et qui est vide, qui est déserté. Et pour moi, c'est un peu ça le film. Il n'y a plus âme qui vive dans l'univers de J.K. Rowling, en tout cas dans ce qu'on en fait aujourd'hui au cinéma. Et moi, je suis reparti de ce film avec cette frustration. Il y a des moments, en regardant le film, j'avais l'impression qu'on essayait de me gaver, en fait, de me nourrir peut-être en m'expliquant des origines de certains personnages, en essayant de nourrir cette mythologie, mais finalement avec soit des détails dont on se moque, soit des choses qui marchent pas forcément et qui parfois je trouve sont en contradiction même avec ce qui avait été créé dans les premiers films. Moi je me dis quelque part c'est un peu ce que je reproche au film. En fait, on nous nourrit de tout un tas de trucs qui moi personnellement m'ont pas forcément intéressé, et au-delà de ça l'histoire en tant que telle, moi je trouve que c'est un film pendant lequel la moitié du film il ne se passe rien. Les personnages sont dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Il y a quand même un moment, une scène dans le film où les deux personnages principaux sont assis à la terrasse d'un café, oui, parce qu'à Paris on a le temps de flâner à la terrasse d'un café, et ils attendent qu'une plume, une vieille plume tout effilochée, une plume usée, alors est-ce que c'est la plume de J.K. Rowling qui a perdu son inspiration, je sais pas, mais ils leur disent finalement tiens qu'est-ce qu'on va faire. Ils attendent en fait qu'il se passe quelque chose, et ben moi c'est ce que je ressentais sur mon siège.
Et d'ailleurs en plein Paris, crac, ils croisent la bonne personne. Oh, et ben tiens, et l'aventure peut continuer.
Alors quand on te dit que Paris c'est quand même une grande ville, ma petite dame, hein, je peux pas savoir où est la personne que vous cherchez.
Et alors Paris, parlons-en un instant. Mais j'ai rarement vu un Paris aussi moche au cinéma. Alors je crois qu'ils ont pas du tout tourné de plan à Paris.
Ouais.
Et quelque part, je trouve que c'est du carton. C'est du carton et c'est feignant. Et je trouve que il y a des moments où je m'ennuyais tellement dans le film que du coup je passais un temps infini à regarder ce qu'il y avait dans les arrière-plans, dans les décors. Et je me souviens de passages comme ça, notamment à un moment où quand on est à Poudlard, on assiste à un cours avec Dumbledore, et je regardais un petit peu les petits objets qui venaient décorer la salle. Et alors c'est fait, c'est placé avec une feignantise sans aucun sens. On a l'impression que c'est des petits objets qui ont été imprimés entre midi et deux avec une imprimante 3D à la va-vite. On perd ce côté. Je sais pas, dans les premiers films Harry Potter, il y avait cette.
Mais une vraie richesse.
Il y avait une richesse visuelle.
Une générosité.
C'est vide. Hein. C'est feignant. C'est.
Bah, la magie a un peu disparu. Enfin, je trouve que le souffle fantastique, magique, c'est essoufflé. Le souffle, c'est essoufflé. C'est pas très beau de dire ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Je sais que Julien, t'avais un petit mot à dire aussi.
Je suis assez d'accord. En fait,
toi qui n'es pas vraiment fan de la saga.
Moi, je suis pas du tout fan d'Harry Potter. Hein, je pense que ceux qui ont écouté notre podcast sur la prophétie de l'horloge et la ressortie du premier Harry Potter,
ils ont entendu que t'avais perdu ton âme d'enfant.
Je les rassure. Hein, je vais pas encore m'étendre sur le côté j'aime pas Harry Potter, tout ça. C'est juste que moi, je l'ai pris. Alors, c'est le premier Harry Potter que je vois depuis le 3.
Ah oui.
Donc ça remonte. Et donc j'ai pas vu le premier Les Animaux Fantastiques. Donc oui, j'étais un peu perdu sur certaines choses, mais pas tant que ça. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, le vrai problème, c'est voilà, c'était cette absence d'enjeu dramatique, de ces lignes de dialogue qui n'en finissent plus, de ces noms de personnages qu'on te lance à l'arracher. Alors en fait, moi j'avais une question. En fait, est-ce que c'est pas une espèce de film fait pour les fans, c'est-à-dire qu'on balance des noms comme ça pour faire plaisir, on balance des petites références que seuls les vrais connaisseurs des bouquins peuvent connaître et pour qu'ils se sentent valorisés. Parce que moi j'ai eu un peu cette impression. C'est un film qui se nourrit de pas grand-chose en fait. Au-delà que c'est un film, je trouve très mal réalisé. Moi, il suffit de voir la scène un peu finale où ils sont tous dans l'arène. Voilà, c'est en termes de gestion d'espace, c'est nullissime. Enfin bon, c'est David Yates. Hein. Je veux dire, moi, David Yates, le seul film.
On va juste préciser, David Yates, qui a quand même réalisé L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé, les deux parties des Reliques de la Mort et le premier Animaux Fantastiques. Donc c'est lui le gros réalisateur.
Les quatre derniers films de. Ouais.
Moi, ma seule expérience de David Yates, c'est son Tarzan en fait. Il y a quelques années, ce film que plus personne ne se souvient. Moi, je me souviens très bien parce que c'était quand même nullissime et en termes de mise en scène, c'était une catastrophe. Et je me suis dit, c'est vrai, il est vraiment mauvais ce metteur en scène. Et je me dis, si tous les Harry Potter que je n'ai pas vus réalisé par lui sont du même acabit, ça doit être vraiment horrible.
Je sais que moi, c'est Harry Potter, je les ai trouvés tous grosso modo assez fades, très gris. Je trouvais qu'on avait perdu énormément en termes de direction de la photo et de direction artistique. Et d'ailleurs, je trouve que la direction artistique est assez artificielle dans Les Animaux Fantastiques, je la trouve assez faible. Mais alors, tu parlais de fanservice et de clin d'œil qu'on fait comme par-ci par-là pour plaire aux fans. Il y a notamment cette communication qui a été faite sur Twitter et les réseaux sociaux autour du personnage de Nagini. Donc qui était simplement le bête serpent de Voldemort dans les précédents films. Et là, ah non. Alors c'est pas un spoil, hein, ça a été révélé mille fois sur internet avant la sortie du film. Ah non, regardez, depuis le début vous pensiez que c'était juste un serpent, mais non, c'est un personnage. En fait, c'était. Alors, ils ont montré, ils étaient très fiers de dire que c'était une actrice asiatique, regardez comme on est ouvert, etc. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'en fait, ce serpent devient.
Voilà, tu vois, je connaissais pas l'explication. Moi,
oui,
ça
m'est c'est
totalement
un personnage...
passé au-dessus de la tête. Mais pendant tout le film, je me suis dit, comme beaucoup de personnages dans le film, je me suis dit, à quoi tu sers ?
Mais ce personnage ne sert à rien.
Voilà, non, mais c'est comme beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ne servent absolument rien ou qui ont une petite utilité à un moment clé du film où. Voilà, mais c'est vraiment très rapide. Et je me suis dit, enfin, voilà, moi, sans parler de l'univers Harry Potter, c'est que je trouve que dramatiquement, en termes de dramaturgie, en termes de scénario, tout ça, scénaristiquement, c'est un film très pauvre.
J'ai du mal à le pitcher, honnêtement. Enfin, finalement, il se passe quoi?
Je trouve qu'Ilan l'a bien résumé, quoi. C'est X-Men, quoi. Il y a les bons sorciers, il y a les mauvais sorciers, et il y en a un qui est au milieu qui doit décider de quel côté il va se ranger.
Il y a un grand vide d'une
heure et demie. Et en termes d'enjeux dramatiques, moi, ce qui m'a vraiment gêné, parce que. Ah bah bon, il n'y a pas d'enjeux dramatiques. Disons qu'il y a des enjeux dramatiques, mais ils sont très très faibles. Et pour que le spectateur ressente quelque chose et pour que le spectateur s'y intéresse, enfin le spectateur, il y en a qui ont aimé, mais moi du moins, je trouve qu'on crée des artifices de toutes pièces. Et là, ce qui m'a gêné, c'est qu'on sent la plume de J.K. Rowling derrière, on sent les efforts scénaristiques pour créer de la tension, créer de l'empathie envers les personnages. C'est-à-dire que dans ce film, tout le monde a une histoire d'amour contrariée. Tout le monde est amoureux de tout le monde a été l'amant de quelqu'un à un moment, et en fait il s'est passé quelque chose et on sait pas, et on s'aime en secret, etc. Alors, tous les personnages ont un frère ou une sœur cachée, il n'y a que ça.
C'est les feux magiques de l'amour.
Non mais et j'ai pensé exactement ça, c'est les feux de l'amour. Et en fait, alors,
il y a un côté très soap. Ouais.
Machin était ta mère, machin était ton père, et on s'y perd, comme disait Thomas, il y a beaucoup trop de personnages. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages, et des personnages dont on se fiche un peu au final.
Oui, ils n'ont rien à défendre.
Pour moi, c'est dans ces éléments-là dont finalement on se moque que, enfin, finalement, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je voyais dans la salle, il y avait des réactions à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était en référence ou un clin d'œil ou qu'elle allait nous apprendre un petit peu plus sur un élément d'Harry Potter. Les gens, ça réagissait et ça réagissait bien.
Ouais.
Mais moi, j'avais l'impression de voir ça. J'avais vraiment l'impression qu'on nous balançait des trucs à bouffer dans la salle. Tiens, je te donne ça.
Tout en se moquant un peu du film précédent, parce que moi, il y a quelque chose. Bah, je suis pas un grand amateur du premier Animaux Fantastiques, mais si tu veux, ce personnage d'humain, j'ai oublié son nom, cet acteur avec ses moustaches qui était très drôle. On lui efface la mémoire à la fin du 1, puis là il revient avec toute sa mémoire et on dit simplement ah oui, ça, le sortilège a pas marché. Bon bah très bien, plus facile tu meurs. Et ensuite Credence, le personnage joué par Ezra Miller, qui pour moi est vraiment très très problématique, parce que j'ai l'impression que le film ne sait pas quoi faire de lui.
En fait, moi, quand j'ai voyé le film, donc voilà, en non connaisseur du tout, je me demandais est-ce qu'il jouait dans le premier, parce que je me suis dit voilà. Cette intro, la façon dans le présent, enfin, je me suis dit ah, j'ai dû louper quelque chose
Il était dans le premier,
c'est un personnage clé du premier d'ailleurs.
Il était dans le premier, sauf que dans le premier, il meurt. Et là, on me dit ah non, en fait, on vous avait pas dit, mais il est pas mort, ça a pas marché non plus.
Il meurt dans le premier.
Ah bah moi, c'est ça dont je me souviens.
Ils le disent dans le deuxième. Non, il est pas mort.
Et le problème, c'est que c'est l'objet de toutes les convoitises. Et le personnage est super effacé. Et je me suis dit, mais est-ce que parce qu'il est dans le premier qu'on l'a pris le temps de le présenter et que là on s'emmerde plus, on le balance, mais il a rien à défendre, il a rien à jouer. Ou est-ce que c'est vraiment il est apparu dans le film et on te dit que c'est l'objet de toutes les convoitises. Mais c'est un personnage qui est inintéressant, qu'on ne comprend pas vraiment. Enfin, on comprend ses motivations, mais elles sont tellement pauvres. Et sa personnalité est tellement pauvre que je me suis dit c'est vraiment bizarre quoi.
Alors
c'est,
Julien qui avait précisé avant l'émission, bon j'ai pas grand chose à dire sur le film, alors je vais vous laisser parler, mais là je sens que t'as envie de déverser ta haine.
Non mais c'est même pas de la haine, c'est juste que moi je parle, je comprenais pas et ce que vous êtes en train de dire en fait ne me fait que me conforter dans mon opinion en fait, c'est que il y a des vrais problèmes dans le film qui pour moi sont vraiment problématiques.
Ce que je trouve étonnant d'autant plus dans ce film, parce que finalement la scénariste du film c'est quand même J.K. Rowling, parce qu'elle n'a même pas tout à fait rien.
Elle est créditée
quand
comme
on
seule
est fan
unique
d'Harry Potter notamment, hein, quand on connaît bien son univers et qu'on y est attaché. Et c'est aussi quelqu'un qui était connu pour avoir écrit Harry Potter en ayant une idée de la trame complète d'Harry Potter, avec le destin de chacun des personnages, la résolution de tous les mystères, etc., au fil des différents tomes et des différents films. Et là, on sait depuis très longtemps, moi j'ai l'impression de l'avoir toujours su, que la licence des Animaux Fantastiques au cinéma, ça va être 1, 2, 3, 4, 5 films. Et là, moi j'ai presque une impression que ce film a été inventé presque à la va-vite, en fait. Je perds cette espèce de fil conducteur. C'est une suite maladroite, en fait. La manière dont les personnages se retrouvent, dont on fait réapparaître cet humain, là, ce moldu, au début du film, ou ce que tu dis là, sur le personnage Credence, qui était déjà dans le premier. Alors, moi, j'avais perdu de vue qu'il mourait. Il me semblait que le doute subsistait quant à son destin. Mais on a l'impression que, voilà... Le deuxième film, le premier film a été écrit comme un film unique et finalement le deuxième, on s'est dit tiens bon on va faire une suite. Moi je vois pas de lien en fait. Je trouve que c'est maladroit. Je trouve que ça se touche pas, ça se colle pas. Les deux films se parlent pas et je crains le pire pour la suite du coup.
Puis il faut un peu parler du personnage d'Ezra Miller qui a pas grand chose à défendre, mais comme tous les personnages, tous les personnages sont lisses, n'existent absolument pas, ne serait-ce que par exemple le personnage interprété par Johnny Depp de Grindelwald, qui est censé être le grand méchant, un personnage ultra charismatique, grand orateur, le Mélenchon des sorciers quoi. et tu te dis qu'en fait il manque une aura, tu comprends pas comment les gens peuvent justement se laisser séduire par ce personnage, parce qu'il a absolument rien de séduisant. On reproche souvent à Johnny Depp d'en faire des caisses, de cabotiner à mort. Là, à la limite, je le reprocherais de pas cabotiner du tout, parce que il y a rien. Enfin, je veux dire, il apparaît pas tant de fois que ça dans le film, en plus. Et je vois pas quelle menace il peut représenter et en quoi il peut être séduisant. Donc c'est un truc qui est effectivement très artificiel dans tout, dans le traitement des personnages, dans sa structure dramatique, dans ce qu'il veut raconter, même. En ce moment, voilà, les grands défenseurs, les défenseurs du film parlent de la portée sociologique ou politique, je ne sais pas, du film, en parlant du côté, allégorie de l'embrigadement, etc.
Mais j'allais y venir.
C'est artificiel, c'est traité de manière artificielle.
Qu'on a vu et revu, ce film n'invente rien à ce sujet. Alors, je trouve que ce film ne nous raconte pas grand-chose finalement à ce sujet-là.
Mais justement, moi ce qui m'a beaucoup gêné dans l'écriture de Animaux Fantastiques 2 par rapport déjà au précédent film Harry Potter, c'est qu'il se passe exactement ce qui se passait quand Star Wars est arrivé, la première trilogie de George Lucas, et puis ensuite on a voulu faire des bandes dessinées, des produits dérivés, des romans tirés de l'univers. Et là on s'est trouvé face à un truc, c'est-à-dire qu'on t'expliquait grosso modo, alors le film te dit il n'y a plus de Jedi, mais les comics étaient là, ah oh, bah si, non mais en fait il y a plein de Jedi, et puis aussi plein de Sith, et puis il y a plein d'autres étoiles de la mort, on vous l'avait juste pas dit, puis en fait il y a telle personne qui était morte mais elle est pas morte, et donc en fait on étoffe l'univers, je trouve, en oubliant ce qui a fait la magie et la saveur de l'univers originel. Et donc du coup moi ce qui me dérange énormément, c'est que premièrement cette magie, je trouve qu'elle a disparu, et encore plus la magie des livres, elle a disparu dans ces Animaux Fantastiques, ne serait-ce que dans les costumes. C'est-à-dire que Dumbledore, il est habillé en complet tout à fait banal, Dumbledore qui est donc incarné par Jude Law.
Il est élégant, point.
Très élégant, point barre. Tous les sorciers sont des humains comme les autres, en fait, là-dedans. Ils sont habillés comme tout le monde. Il n'y a rien de bizarre à leur univers. Moi, ce que j'aimais énormément dans les romans, c'est que l'univers de la magie, l'univers de la sorcellerie, il arrivait de l'inattendu, du bizarre, du secret. Tu découvrais que les sorciers vivaient dans des recoins qu'on ne voyait pas, que les êtres humains normaux ne pouvaient pas percevoir. Et là, en fait, c'est juste que Paris est juste ce qu'il est, sauf qu'on vit sur deux plans de existence séparée, comme deux dimensions. Il n'y a plus cette espèce de mystère, d'inattendu et un peu de folie. Tout le monde est habillé de manière totalement traditionnelle. Les sorciers à New York vivent dans des grands buildings comme n'importe quel banquier. Le ministère de la magie, c'est juste des gens derrière des bureaux. Je trouvais qu'on a...
Côté Men in Black d'ailleurs, un peu.
Exactement, Men in Black. On a dévitalisé Harry Potter à tel point que ce Grindelwald, qui est donc le grand sorcier, le grand mage obscur... qui était censé être arrivé des années avant Voldemort, eh ben, le nouveau scénario faisant et les nouveaux effets spéciaux faisant, je trouve qu'en fait, en termes de puissance, il représente une menace qui est genre 10 fois plus élevée que ce qu'on a pu voir de Voldemort dans les précédents films. Du coup, je trouve que ça décrédibilise complètement ce personnage de Voldemort qui est censé être le grand méchant. C'est comme si on te disait dans Star Wars, Dark Vador, oui, mais en fait, juste avant, il y en avait un qui était 10 fois mieux et 10 fois plus fort.
Ah, c'est un peu l'empereur.
Ça vient diminuer ce qu'était
Et on vient amoindrir le souffle d'Harry Potter avec ce film qui a une ampleur encore plus démesurée. Et à un moment, pourtant, j'y ai cru. C'est un grand mot, mais je me suis dit, tiens, on va essayer de trouver quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand on voit Grindelwald, on le voit comme un séducteur, un orateur qui essaie de jouer sur la fibre politique du monde des sorciers, c'est-à-dire convaincre par le dialogue, la parole, le Mélenchon du monde des sorciers.
Ou l'empereur Palpatine, en fait.
Ou l'empereur Palpatine. D'avoir quelque chose de bien plus insinueux, politique. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Parce que premièrement, quand on voit, alors, on sait que on a tout de suite décrypté des métaphores du monde actuel, éventuellement de l'Amérique de Trump, de l'embrigadement, du nazisme, etc. Sauf que quand on voit ses partisans, déjà, on fait ce qu'avaient fait exactement les précédents films sur Voldemort. C'est-à-dire que tous ses partisans sont tout pâles, en noir, avec des longs cheveux gras. Tout ça, c'est extrêmement stéréotypé. En fait, finalement, ils s'adressent pas aux sorciers moyens. Ils s'adressent déjà aux gros sorciers maléfiques. Et en plus, alors il a un espèce de discours, vous voyez, le mal c'est pas nous, c'est les institutions, c'est le gouvernement. Il se pose comme un espèce d'anarchiste rebelle, sauf qu'à la moindre occasion il essaie de détruire la ville comme n'importe quel terroriste et n'importe quel, et qui donne lieu à une scène à effets spéciaux comme n'importe quel blockbuster Marvel. Donc au final je trouve que tout ça, ça tient pas vraiment la route, et je trouve que l'univers d'Harry Potter s'écroule, en fait ça ne ressemble plus à l'univers d'Harry Potter pour moi.
Moi, j'ai une question pour les connaisseurs justement du bouquin. On parlait de l'homosexualité de Dumbledore. Est-ce que c'est quelque chose d'avéré dans les bouquins ou pas ? Parce que dans le film, ils disent oui, on avait une relation très proche. Alors, on rigole parce qu'on devine qu'en fait, plus jeune, ils aimaient se comparer leurs baguettes. Mais
pour moi, c'est une chose de plus que le film a complètement raté. C'est que finalement on peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut dans cette relation entre Grindelwald et puis Dumbledore dans les bouquins. Et alors après l'écriture du dernier tome, J.K. Rowling, dans une interview qu'on peut trouver d'ailleurs, elle est sur les DVD je crois, dit Dumbledore est gay. C'est pas une... Elle le dit, voilà, elle l'affirme. Et alors, je crois qu'il y a eu un petit peu de communication là-dessus à l'époque du premier film, disant c'est quelque chose qu'on va pas vraiment aborder, etc.
Oui.
Mais laissez-nous la possibilité d'imaginer une relation de cet ordre-là entre eux. Et finalement, le film commençait pas si mal, parce qu'on sait que Dumbledore veut pas affronter Grindelwald, et on peut imaginer qu'il a ses propres raisons, et dans ses propres raisons, on peut y mettre ce qu'on veut. Moi, j'y mets quelque chose, mon voisin à gauche, à droite, ils mettent autre chose. Et finalement, à la toute fin du film, on se rend compte qu'il y a un élément presque technique qui fait qu'il ne peut pas l'affronter. Mais quel gâchis, quel dommage. Pour moi, c'est une chose de plus que le film vient se faire s'effondrer, en fait, dans la légende, dans le mythe.
Ben, moi, je trouvais que c'était ça. C'est un film qui déconstruit le mythe pour construire quelque chose par-dessus, mais quelque chose qui, pour moi, n'a pas de saveur. Voilà. Et grosso modo, on va s'arrêter là.
Moi, j'ai quand même
une dernière chose à ajouter. Oui.
C'est que je salue, mais vraiment, le travail de Jude Law sur Dumbledore. Oui, je trouve qu'il a fait un excellent travail. Et en plus, je suis vraiment content parce que je pense qu'il a vraiment travaillé sur l'interprétation de Dumbledore par Richard Harris.
Exactement,
et
on
non
voit
pas
des
par
mimiques.
Michael Gambon. Ouais. On a l'impression de le reconnaître même dans la voix. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de précision, beaucoup de détails. Et je salue son travail. Je trouve qu'il est tout à fait crédible. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que finalement, il est plus jeune. Il a quoi, entre 45 et 55 ans dans le film. Et il a déjà cette sagesse qu'on va lui connaître dans la suite, finalement. Je trouve que son boulot est très bon.
Allez, un dernier truc. Ouais,
dernier truc. Donc, juste, je posais cette question parce que, justement, quand il y a cette scène qui évoque le lien très fort entre Dumbledore et Grindelwald, je voyais les spectateurs à côté de moi qui rigolaient. Donc, comme si on était eux étaient dans une confidence que moi, en tant que profane, j'avais pas. Donc, c'est aussi pour ça que je posais cette question, savoir si c'était quelque chose qui était acquis dans le.
Ah, oui, bah, dans le bouquin, c'est sous-entendu peut-être plutôt comme une espèce de relation platonique, une relation très forte entre deux génies, parce que ce sont ça, quand ils sont jeunes, ce sont deux génies de la magie, et qui débouchent éventuellement sur une histoire d'amour. On ne sait pas trop, ça restait un mystère.
Et on ne sait pas de quel ordre.
Et on ne sait pas non plus de quel ordre, et je trouvais ça un petit peu dommage que J.K. Rowling communique trop là-dessus. Moi, j'aimais bien la place de l'imaginaire de chacun, ouais, comme tu le dis, sur le sujet. Mais ça,
peut-être qu'elle a déjà fait une erreur en révélant ça.
Oui, mais ça, c'est un problème de beaucoup de. Bah, Star Wars vit exactement la même chose aujourd'hui, hein, sur les réseaux sociaux. Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, grosso modo, Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, nous sommes assez, même carrément déçus. Alors déçus, ça voudrait dire qu'on en attendait beaucoup, personnellement, voilà. Moi pas trop. Mais il est temps maintenant de passer à l'autre sujet de la soirée, Suspiria, autre film de sorcellerie, deux salles, deux ambiances, on écoute vos avis, c'est parti.
C'est insupportable en fait, parce que c'est trop long, parce que c'est poussif, c'est il y a trop de choses, mais trop de choses qui sont pas intéressantes, quoi.
Et convaincu, mais il faut oublier l'ancienne, c'est complètement un reboot en fait, faut vraiment repartir de zéro, et je pense que c'est ça peut être très intéressant s'il y a une suite, mais c'est pas sûr qu'il y en ait une parce que ça dure quand même 2h32. Je ne sais pas si le film va rencontrer son public du coup.
Il en fait trop. Tout est exagéré en fait. Voilà.
Oui, je le conseille. Et Dakota Johnson est juste exceptionnelle. Tilda, c'est Tilda, elle est toujours magnifique. Et voilà. Et Berlin dans les années 70, c'est intéressant parce que c'est ce fond historique qui est là. Donc voilà.
C'est pas un film d'horreur. C'est un film d'ambiance. Il y a une ambiance formidable. Il y a une énergie assez incroyable qui est d'ailleurs beaucoup portée par les corps et la danse et qui culmine dans une scène finale, je dirais, d'anthologie. Hein. Enfin, elle est vraiment marquante. Elle est parfaitement maîtrisée. Elle mélange un petit peu tout ce qu'on veut faire dans le film et surtout, en fait, elle annonce clairement quelque chose qui va être encore plus grand. J'espère que les gens vont aller le voir.
Et donc Suspiria version 2018, vous l'aurez compris, un film qui divise le public. On a vu que les réactions étaient très tranchées, en même temps c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est pas un film qui est forcément évident à aborder. Et d'ailleurs, en plus de ces avis qu'on est allé enregistrer en sortie de salle comme d'habitude, je vais vous lire celui de Thomas qui encore une fois m'a laissé un petit mot. Il m'a dit que ça lui avait fait le même effet que devant Mother. Ça lui a fait penser à Mother, le film de Darren Aronofsky qui est sorti il y a peu. Un film déconcertant mais qui reste fascinant. C'est très difficile de se faire un avis tranché sur le film et de dire vraiment si on aime ou on n'aime pas. Par contre, il retient un passage horrifique incroyable sans doute l'un des passages d'horreur qui est les plus dingues qu'il ait vu cette année avec Hérédité. On avait fait un podcast sur Hérédité, d'ailleurs je vous envoie vers l'émission. Alors Mathieu, tu n'as pas vu Suspiria, mais Ilan et Julien, tous les deux, vous avez pu y aller. D'ailleurs je crois que Ilan, t'étais à la Projopresse, non?
J'étais à la Projopresse.
Et toi?
Et puis je l'ai vu ensuite avec Ilan à une séance publique.
Ah bah tiens, vas-y Julien, c'est toi qui commence. Alors, parle-nous de Suspiria.
Donc le commentaire de Thomas me pose beaucoup de problèmes. Parce que, alors moi j'ai adoré Mover et je ne le range absolument pas au même niveau que Suspiria, qui pour moi n'est pas du tout un objet de fascination, mais un objet de consternation. C'est pour moi un des pires films de l'année qu'on ait vu. C'est
carrément.
C'est et ça n'a aucun rapport par rapport à sa nature de remake.
Je te coupe une seconde, mais on va préciser quand même pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Suspiria, donc c'est un classique du cinéma d'horreur italien, mais qui a traversé les frontières, qui est un film de 1977 réalisé par Dario Argento,
qui est une œuvre culte. Hein,
qui est une œuvre culte. Et là, d'ailleurs, qu'on a revu au cinéma ensemble, il n'y a pas si
avec
longtemps.
Avec Thomas.
Avec Thomas au Max Linder. Et cette fois, c'est un remake donc réalisé par Luca Guadagnino, qui est lui aussi un réalisateur italien. Donc déjà, je trouve que pour un Italien de se réapproprier Suspiria, c'est pas rien. Il a fait une proposition. Et sur ce, je te redonne la parole, Julien, vas-y.
Proposition, alors je sais pas, parce que moi j'ai envie de dire proposition de quoi. Je n'ai aucun grief contre le film par rapport à sa nature de remake, parce que c'est un film totalement différent qui n'a absolument rien à voir. Tant que scénaristiquement, le film dure une heure de plus que l'original, qu'esthétiquement. Donc c'est toujours la même base, une école de danse qui cache en son sein des sorcières, voilà. Et on était dans un truc très baroque visuellement, dans une espèce de conte de fées horrifique qui n'avait pas vraiment de sens scénaristiquement parlant chez Argento, où tout était dans le style en fait de Argento. Là on a un film qui essaye un peu de donner des explications un peu à tout et qui est dans une espèce de démarche autorisante, qui a des choses à dire sur la société d'aujourd'hui. On fait référence au nazisme, on fait référence au pouvoir matriarcal, donc on est dans l'ère MeToo. Dans la bande à Bader, où les agissements des sorcières ont des répercussions sur le climat politique des années 70, parce qu'on est toujours dans les années 70, on est en 1977, je crois.
Bah c'est simple, le film originel est sorti en 77, donc ce remake se déroule en 77.
Et donc on est là, les années un peu... Enfin, les années plomb pour en Italie. Mais bon, là, on est à Berlin, on est en Allemagne. Donc, ça fait référence à la bande à Bader. Et ça n'a... pour moi, ça n'a aucune cohérence. C'est n'importe quoi. On met des trucs modernes, anciens, pour dire, faire croire qu'on a quelque chose à dire. Et on allonge la sauce de manière interminable. C'est un film... Moi, parce que c'est un film qui est divisé en six actes et un épilogue.
Ouais.
Et moi, j'étais là à compter combien restait d'actes, parce que je n'en pouvais plus. Au bout du quatrième, je n'en pouvais plus. C'est interminable. On est dans l'attente de que le film prenne corps, que de dire qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, on a du vide qui tout d'un coup débouche sur un sixième acte, où là le film vire au navet le plus total.
Eh ben.
Je suis pas en colère parce que.
Pourtant, t'as l'air en
arrière. Non, mais je suis en colère
contre
le film.
Tu fais bien préciser. Hein.
Je suis en colère contre le film, mais pas parce qu'il m'a choqué, parce qu'il m'a. Comme certains ont pu l'être pour Mover, par exemple, où il y a des gens qui étaient vraiment en colère contre le film parce que ça les a troublés, ça les a choqués, ou comme on avait une spectatrice pour Climax, qui a été choquée de ce qu'elle avait vu. Moi, c'est même pas ça, c'est un film, parce que moi, je suis en colère contre ce film parce que ça se prétend vouloir être choquant, être radical. Et pour moi, ça ne l'est absolument pas, parce que le film ne m'a fait sentir absolument rien. Je n'y ai rien ressenti. C'est d'une pauvreté émotionnelle. Et quand même, un film d'horreur où tu ne ressens rien, c'est quand même le comble. Ça doit être quand même un film d'horreur, ça doit être organique, perturbant, ça doit être anticonformiste.
Il y a des passages assez perturbants dans le film quand même.
Non, parce que par exemple, il y avait une scène qui, je me suis dit à un moment, c'est une très bonne idée, mais j'en ai rien à faire. Donc une scène où l'effet de danse est lié à une espèce de torture.
Et à la mise à mort.
Une mise à mort.
Plus ou moins.
Et malgré les qualités visuelles du film, je n'ai je n'ai rien ressenti parce que c'est plat, c'est vide.
Écoute, Ilan, j'ai l'impression
que... Je sais qu'Ilan est de mon avis divorce parce que...
Attention, on spoil pas.
Spoiler, il l'a vu deux fois et la deuxième fois, il a tenu à le voir volontairement.
Hein. Mais oui, je voulais voir ta réaction. C'était, tu sais, j'étais dans un côté très expérimental, très expérimentation.
Un peu sadique aussi.
Bah, totalement.
Tu fais des expériences sur tes amis pour voir comment ils réagissent.
Alors, moi, je préviens tout de suite, je pense qu'au terme de mon intervention, ma tête va être mise à prix, je vais me faire cracher dessus dans la rue, je vais certainement être contraint à l'exil.
Je vois des gens qui s'amassent déjà derrière les vitres du pub.
Là, Hurling, ça commence avec les fourches et le feu. Alors, pour avoir revu l'original de Suspiria de Dario Argento il y a quelques jours, justement...
Tu as fait tes devoirs.
Alors, je trouve que le film a quand même pris un sacré coup de vieux.
Oui, il a vieilli.
Je trouve des qualités, mais il a mal vieilli comme beaucoup de films d'Argento. Je suis pas un grand fan d'Argento.
Sauf visuellement, quand même.
Ah, même visuellement, il y a des trucs, si tu veux, qui...
Dans les couleurs, moi, je trouve ça impressionnant. Ouais, mais
c'est radical, ça aussi. Enfin, ça passe ou ça casse. Mais moi, je trouve que même dans son usage des couleurs, son usage chromatique, je trouve que le film a mal vieilli. Et que, bon, de toute façon, les films d'Argento, ça passe ou ça casse. Il y a des films qui tiennent bien la route, et il y en a beaucoup d'autres qui, malheureusement, tiennent peu le cap. Mais bon, tout ça pour dire que moi, ce que j'ai aimé dans Suspiria 2018, parce que oui, je suis un défenseur de Suspiria 2018.
Oh là là.
Je peux pas dire que je l'ai aimé parce que c'est difficile de dire qu'on a aimé ce film. Je vais pas dire que j'ai une petite tendresse pour Suspiria 2018.
Une affection particulière.
Voilà, j'ai pas une affection particulière pour Suspiria 2018, mais je le trouve très intéressant dans la mesure où pour moi c'est pas un remake, c'est véritablement une réinterprétation du film, c'est une réappropriation du mythe originel, si je puis dire. Et dans lequel le réalisateur a calé un certain nombre d'obsessions que je trouve très intéressantes, parce que qu'est-ce qu'est son Suspiria 2018? C'est un film qui est sur la honte et la culpabilité, d'ailleurs c'est quelque chose qui est dit vers la fin du film, et sous deux prismes en fait qui m'ont intéressé, à savoir que ces sorcières-là peuvent être vues comme une métaphore des démons qui rongent l'Allemagne d'après-guerre, voire l'Europe d'après-guerre. Le fait que ça se situe en 1977, je pense que c'est pas seulement un clin d'œil au film d'Argento, je pense que c'était justement voulu de placer ce film à cette époque-là particulière, pour toutes les raisons qui sont invoquées dans le film. Et il y a une autre chose, moi, que j'ai trouvé aussi très intéressante dans le film, c'est que, alors, comment dire, on va mettre fin pour moi à un malentendu, excusez-moi. Pour moi, Suspiria n'est pas un film de genre.
Pour moi, lequel, celui-ci ou le précédent?
Suspiria 2018 n'est pas un film de genre. Pour moi, voilà, c'est une espèce d'allégorie sur les démons, la culpabilité allemande post-guerre, voire européenne, mais aussi sur le coming out. Pour moi, c'est un film sur le coming out. C'est sur une femme qui par la danse, par la découverte de son corps, de ce qu'elle fait avec son corps, se débarrasse aussi de cette culpabilité qu'on voulait lui mettre, cette culpabilité inhérente au milieu dans lequel elle vit. Parce que l'héroïne est en fait une fille qui vient d'un milieu de mormon ou d'amish, je sais plus. Amish. Donc il y a cette espèce de culpabilisation par rapport au sexe. Par rapport à la découverte du corps, il y a des choses qui sont dites quand même. Bon. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors oui, effectivement, le film, pour moi, est radical parce qu'il ose l'allégorie très intellectualisante. C'est effectivement un film qui est très cérébral, qui joue beaucoup sur ça, sur la métaphore, sur un propos qui est parfois montré à la truelle. À un moment donné, c'est... Tu la vois bien, ma grosse métaphore, tu vois mon propos, à quel point il est pertinent et à quel point je suis intelligent. Effectivement, il y a ce côté-là. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir utilisé Suspiria pour ça. Et si je devais utiliser une allégorie, on va dire, journalistique, je dirais de manière très grossière, très grossière.
Sois grossier.
Voilà. Et très caricaturale, que le Suspiria de 1977 d'Argento était un film, un film pour lecteurs de MAD, et que le Suspiria 2018 est un film pour lecteurs de Télérama.
Les cahiers du cinéma.
Ou les cahiers du cinéma, mais pas dans le sens péjoratif du terme, parce que d'un côté, on a un film extrêmement baroque qui joue avec les codes que du genre et qui se revendique être un film de genre, et de l'autre côté on a un film qui se veut beaucoup plus cérébral, beaucoup plus intellectuel, et qui donc appelle à une autre sensibilité. Et ça veut pas dire que celle de 1977 est moins bonne que celle de 2018, et inversement, je pense que c'est deux sensibilités différentes, et qu'à un moment donné il faut aussi accepter l'idée de se réapproprier un matériau d'origine pour en faire quelque chose d'extrêmement personnel. Donc c'est en ça que je trouve le film extrêmement
intéressant. Ça reste quand même très prétentieux, excuse-moi, mais parce que quand tu parles de sexualité dans le film, c'est quand même, voilà, on va t'expliquer ce que c'est la sexualité, ben on va montrer une héroïne qui se masturbe. Mais le Argento, il avait même pas besoin de ça pour expliquer la sexualité de son héroïne qui était asexuée, mais ça passait par les symboles, ça passait par l'image. Là, c'est juste, voilà.
C'est pas la même approche.
C'est pas la même approche, mais c'est l'approche du film de 2018, elle est complètement, comment dire, c'est prétentieuse, elle se veut intelligente, et en fait c'est juste bateau, quoi.
C'est si tu le prends effectivement comme ça, c'est, moi je comprends qu'on puisse avoir un rejet pour ce film, qu'on puisse se dire non mais attends, ce film me prend vraiment pour un con et se prend pour plus intelligent qu'il n'est. Il a ce côté-là, mais il y a aussi une recherche au niveau de l'image, au niveau du sound design, au niveau de la mise en scène. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes dans le film. Donc voilà, je trouve que le film ne devrait pas s'arrêter juste à un a priori qu'on pourrait avoir sur son côté intellectualisant ou beaucoup trop cérébral.
Eh ben, écoute, je suis désolé, Ilan, mais je vais pas rejoindre. je ne vais pas te rejoindre. Alors, je suis pas tout à fait dans le camp Julien, parce que je suis pas aussi énervé contre le film que lui. Moi, vraiment, ce qui me pose problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce film s'appelle Suspiria. Parce que finalement, c'est un remake de Suspiria qui a envie... J'ai l'impression que le réalisateur n'avait pas envie de réaliser Suspiria. Il a raccroché ses propres ambitions de metteur en scène sous cette appellation Suspiria, et qu'au final, ça n'a pas grand-chose à voir. Et que si on a envie de raconter autre chose, eh ben, autant faire un autre film. Au début, j'ai cru qu'on était vraiment dans cette filiation. Parce que Suspiria, comme beaucoup d'œuvres de l'époque... Je vais reprendre une phrase d'Alan Moore qui disait qu'on lui demandait, mais parce qu'Alan Moore se décrit le scénariste Alan Moore qui a écrit Watchmen notamment, qui se décrivait comme un sorcier. On lui a dit, mais comment ça vous êtes un sorcier? Il disait oui, parce que la magie c'est l'art. L'art c'est la magie, le cinéma, la littérature, c'est comme ça qu'on fait de la magie. Et Suspiria t'expliquait quoi? T'expliquait que ces sorcières, le parallèle c'était que la magie c'était la danse, c'était déjà une école de danse. Je me suis dit, là-dessus, il tente quelque chose, puisque finalement, par bien des aspects, on a l'impression que ce Suspiria 2018 est plus un film sur la danse.
Oui, tout à fait, oui.
Qu'autre chose. La danse, c'est... Il y a des numéros... Parce que la danse, on ne la voyait pas dans le film original de 77.
Très peu,
ouais. Il y a des numéros chorégraphiés d'ailleurs par un franco-belge, j'ai retenu son nom, Damien Jallet, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des beaux numéros de danse, on voit énormément de préparation, de souffrance. Et d'ailleurs, cette fameuse scène de mise à mort que décrit Thomas, qui est effectivement vraiment ignoble, hein. J'ai trouvé que c'était pas mal. Le gros reproche que je ferais à cette scène, c'est que je trouve que le montage est assez mauvais. Je trouve que le montage n'est pas très efficace, n'est pas toujours très heureux. D'ailleurs, c'est quelque chose que je reproche au film dans sa globalité. Je trouve qu'il n'est pas très bien monté. C'est assez grossier par moments pour moi. Mais cette scène, c'est quoi? C'est de la souffrance corporelle, des membres cassés, des côtes brisées, de la bave, de la sueur. Et on
de
voit
l'urine.
De l'urine. On voit la souffrance des corps, on voit la souffrance de ces danseuses, la difficulté, le travail. Et à un moment, j'ai cru que c'est ça qu'ils voulaient nous dire, que ce serait un film aussi sur le milieu de la danse, sur ce que ça peut représenter dans une carrière pour une apprentie danseuse. Mais à ça... Je trouve que le film veut greffer énormément, et notamment des aspects politiques. Alors, tu parles des troubles, parce que voilà, le film se situe à Berlin-Ouest, dans une Allemagne divisée entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Le film parle des cicatrices du passé, des cicatrices qui n'ont pas été pensées, soignées. On fait des parallèles sur le nazisme, sur les camps de concentration, sur le terrorisme, sur les groupes anarchistes et communistes.
La bande à Bader, tout ça.
La bande à Bader. Mais tout ça, à un moment, je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce que ça représente véritablement par rapport à Suspiria? Et là où je peux pas m'empêcher de penser qu'on est dans une certaine posture intellectuelle, c'est que quand tu vas sur le Wikipédia, qui est donc rédigé par la production du film, hein, le Wikipédia officiel du film, avant, le film est à peine sorti que toutes les thématiques sont déjà listées. Ça parle de la maternité, ça parle du féminisme, ça parle du nazisme. On affiche son ambition. Regardez de quoi on parle. Regardez comment on se place et comment on est intelligent et comment on est bon. Et ça, je trouve ça assez effrayant, surtout quand on a un matériau d'origine qui est un matériau originel qui est vraiment sur l'abstraction, sur le conte, sur le ressenti, avec une certaine simplicité et une vraie naïveté qui peut être totalement désarmante pour un spectateur d'aujourd'hui. On va même jusqu'à rechercher l'actrice du film originel qui joue un autre rôle là-dedans. Et justement, elle joue un autre personnage. Pour moi, c'est un autre film. Ça n'a rien à voir avec Suspiria. Et toutes ces parallèles à la bande à Banner, j'ai vraiment eu du mal à les comprendre. Et d'ailleurs, on introduit un autre personnage qui est un personnage d'une histoire annexe, qui est le docteur Klemperer, qui est un personnage vieillissant. Il faut le savoir qu'il porte un maquillage puisqu'il est joué par Tilda Swinton qui joue l'une des sorcières principales. Tilda Swinton qui joue donc ses deux rôles. Et quand on lui a demandé en interview pourquoi elle jouait les deux, elle a dit parce que c'est fun. Ouais. Je vois pas l'intérêt, je ne vois pas ce qu'il fait là. Et même si tu le retirerais du film, à part parce que bah voilà, ça représente les troubles du nazisme, les troubles de l'Allemagne du passé par rapport aux troubles de l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça nous apporte vraiment dans cet univers sur un film qui part de la sorcellerie? Et pour d'ailleurs, pour parler de la sorcellerie, il juge que l'histoire originelle n'était pas suffisante et donc il va jusqu'à te donner une explication et un historique de la mythologie des sorcières, des ancêtres, des thématiques sur la mer, sur les trois mers, sur le retour des élus en quelque sorte. Et tout ça.
Il y a une guerre interne entre les sorcières qui a été rajoutée.
Une guerre interne politiquement, c'est-à-dire que la sorcière d'origine, donc la sorcière Marcos qui dirige cette école dans le premier film de 77, là elle a une rivalité avec Tilda Swinton qu'on ne comprend pas trop parce qu'on ne les voit jamais ensemble, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Tout ça jusqu'à cette scène finale qu'on ne va pas révéler, mais qui amène un twist que j'ai trouvé d'ailleurs complètement aberrant, puisqu'il désamorce tout ce que tu as vu du film jusque-là, puisque tu as un personnage qui se révèle autre, et tu te dis, bah alors pourquoi elle a fait tout ça depuis le début?
Ça m'a permis de comprendre certaines de ses réactions.
Ça servait à quoi, tu vois? Oui, ça permet de comprendre ses réactions, parce que pendant tout le film, ses réactions sont assez bizarres. Ça donne une explication aux réactions, mais ça ne donne aucune justification au personnage. Pourquoi elle a fait ça depuis le début? Pourquoi elle est passée par tout ça? Qu'est-ce qu'elle s'est fait chier? Et surtout, ça désamorce toutes ces thématiques de maternité, de sexualité entravée, parce qu'en fait, tout ça était du vent, c'était faux. En fait, tout ça vole en éclats avec ce twist final, donne lieu à une espèce de grande scène d'horreur grotesque qui, là, je trouve, perd toute son intensité. En fait, on éclaire tout en rouge, on met une lumière un peu sombre, parce que sinon, c'est que du maquillage bidon, quoi. Et pour moi, la scène, le film s'est effondré, alors que jusque-là, j'avais vu quelques séquences intéressantes. De temps en temps, il y avait quelque chose, ça me paraissait autorisant, trop intellectuel, même de la masturbation intellectuelle, allons-y carrément. Mais parfois, il y avait un truc. Et ce twist final, pour moi, il a voulu jouer au petit malin, et ça s'effondre totalement. Et là où c'est là où vraiment j'ai compris, je me suis dit, mais ce réalisateur, il avait pas envie de faire ce film, en fait. Il avait envie de faire autre chose. Il l'a appelé Suspiria parce qu'on l'a obligé ou pas, j'en sais rien. Mais ça n'a rien à voir, et ça aurait dû s'appeler autrement.
Oui, mais Suspiria, de toute façon, c'est un projet qui date et qui n'a pas toujours été associé à ce cinéaste. Mais je vais revenir sur deux choses que tu as dites. Effectivement, ouais.
Projet qui devait réaliser par David Gordon Green.
C'est ça, exactement.
Avec Isabelle Huppert en Madame Blanc. Et donc David Gordon Green, le réalisateur du
remake d'Halloween.
La suite d'Halloween, qui est une espèce de fat film. Et donc, moi, je me dis, bon, je reconnais au film l'audace de ne pas être ce Halloween moderne, de être complètement autre chose. Mais le film est tellement pour moi absolument d'une boursouflure, terme que je déteste utiliser, que je me refuse à utiliser. Mais là, le film m'a tellement déplu que pour moi c'est vraiment le type de la boursouflure.
Ce qu'on peut faire, c'est aussi il y a plusieurs manières d'aborder le film. Je reviens sur ce que tu as dit concernant le personnage qu'interprète Tilda Swinton. Il faut savoir que dans le générique de fin, on ne voit pas que c'est elle. Ils mettent le nom d'un acteur fictif, et c'est un jeu auquel ils ont joué même à Venise. C'est-à-dire qu'ils ont créé une fiche IMDB du faux acteur.
Il y a même un article qui a été fait sur cet acteur.
C'est un acteur débutant, etc. Alors, justement, je viens là-dessus. À Venise, Tilda Swinton a lu une fausse lettre d'excuse du mec pour pardonner son absence. Je pense que tout ça participe à une espèce de performance artistique. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Le film, on peut le voir aussi comme une espèce de performance artistique dans tous les sens du terme. Devant l'écran, derrière l'écran. Et c'est aussi ça qui peut rebuter. Moi, je reconnais au film, effectivement, des défauts, tous ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, croit un peu trop intelligent. Parfois, il tombe dans son propre piège, mais au moins, parmi toute la galaxie de remakes indigents qu'on a eu, qui étaient des copier-coller ou des faux ou des espèces de fan-films qui n'avaient aucun intérêt, au moins, il a l'audace de proposer autre chose. Alors, on adhère pas, mais au moins, il suscite quelque chose.
Eh bien écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. C'est un film qui suscite quelque chose. Je ne sais pas comment prendre ça. En tout cas, allez le voir. Faites-vous votre avis. Bon, vous l'aurez compris, Julien est carrément en colère. Moi, je suis vraiment mitigé. C'est un film que je vais oublier très rapidement. Et bah, Ilan,
je l'ai vu deux fois.
Ilan, le défenseur de la cause des opprimés. C'est comme ça qu'on connaît.
Le film m'a troublé. Si tu veux, pour que je voie un film deux fois, faut qu'il y ait quelque chose vraiment intéressant à creuser, si je puis dire.
Allez, merci à Delphine, Ingrid, Isabelle et à toutes celles et ceux qui ont gentiment accepté de nous donner leurs avis en sortie de salle. On vous remercie vraiment du fond du cœur. Pour nous retrouver, ma foi, c'est fort simple. Hein, on est à peu près sur toutes les applis podcast. Donc Apple Podcast, Spotify, SoundCloud et compagnie, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires et des étoiles. Vraiment, ça peut nous aider. N'hésitez pas surtout même à vous abonner. On a besoin de vous, les amis. Sur Twitter, vous pouvez nous retrouver sur @fin_de_séance. Fin de séance. Et sinon, venez carrément boire un verre avec nous au Hurling. Ça nous ferait vraiment très plaisir. On est là quasiment tous les vendredis au Hurling, donc le pub dans le 5e arrondissement de Paris, près du Panthéon. C'est notre QG, notre bar. On est comme à la maison. D'ici là, eh bien, merci beaucoup, Ilan.
Merci à toi, Tom-Pierre.
Tom-Pierre.
C'est Tom-Pierre.
Prénom composé. On te retrouve sur quoi, Ilan ?
On nous retrouve, Julien et moi, sur cinevibe.fr et sur Twitter, cinevibe.fr, tout attaché.
Et bien, avec, du coup, merci, Julien. Voilà.
Des tweets, des jeux concours.
Merci, ouais.
Des tweets et des jeux concours.
Ouais, des tweets et des jeux concours.
Qu'est-ce qu'on peut gagner ?
Ouh là, on va bientôt gagner un coffret Rambo.
Je peux jouer ?
Tu veux jouer ?
En tout cas, merci Mathieu pour ta première émission. Comment tu t'es senti ?
Ben merci à vous. Je me suis senti très bien accueilli.
Ben écoute,
c'était un plaisir.
Oui, on est chaleureux. On est entre nous.
Ah non, vous mordez pas. Non.
Enfin, sauf si tu lui demandes. Hein, mais...
Ouais, bah alors on va pas s'attarder là-dessus. D'ici là, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le numéro 23. Et on vous souhaite une bonne séance et on vous fait de gros bisous.
Bisous.
Bisous. Salut.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.